ou quelqu'un que vous connaissez étudier une nouvelle langue? Le concours national des langues SBS 2018 est ouvert jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sbs.com.au/nlc18.
Les grands titres d'abord, la candidate indépendante Karen Phelps aurait remporté l'élection partielle de la circonscription de Wentworth en Nouvelle-Galles du Sud. Les États-Unis se retirent du traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire signé avec la Russie en 1987 et les kangourous australiens remportent le match de rugby contre Tonga dans le cadre du test match international 34-16. Et en Australie d'abord, la victoire probable de la candidate indépendante Karen Phelps lors de l'élection partielle de Wentworth, le bastion de l'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull. Le Parti libéral pourrait peut-être encore gagner cette élection partielle. Le décompte des votes postaux a tout à l'heure réduit l'écart dramatiquement entre la candidate indépendante Karen Phelps et le libéral Dave Sharma. Ce midi, l'écart n'était que de 884 votes après la distribution des votes préférentiels. On va donc suivre cette nouvelle sur SBS News toute la journée. Il pourrait bien y avoir une surprise pour le résultat final d'ici quelques jours avec le libéral Dave Sharma qui pourrait être le candidat élu après tout. Dr Phelps a déclaré la victoire très tôt samedi soir avant le décompte des votes postaux. On l'écoute.
Thank you to the people of Wentworth for placing your trust in me. I won't let you down. I want to thank my amazing team of purple people. You have been absolutely phenomenal. The support that you have given this campaign, and I know this isn't a victory for one person.
Voilà, Dr Phelps qui avait déclaré la victoire très tôt hier, samedi soir, avant le décompte des votes postaux. Dave Sharma, le candidat du Parti libéral, parle d'une expérience intéressante lors de cette campagne électorale.
Tonight's result has been over a little sooner than I expected. I'm certainly glad I kept my day job. And I have something to go back to. But I do want to start by paying tribute to the other candidates out there tonight, and particularly Dr. Karen Phelps, who seems to have won the seat. She ran a very good campaign. She's a formidable Australian and has given much to Australia, and I hope and trust she will be a good local member for Wentworth. And whatever I can do to support her in that role, I will.
Voilà, Dave Sharma du Parti libéral. Le chef adjoint du Parti libéral, Josh Frydenberg, a déclaré sur Sky News que la coalition a été punie pour le traitement de l'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull comme chef des libéraux, victime, je cite, d'un coup d'État au sein de son propre parti en août dernier.
What we've seen is the Liberal Party focus on its own internal debates. And when that occurs, the public mark you down. This is a deeply disappointing result. We'll cop it on the chin. There's no sugarcoating the result. But the people of Wentworth have sent us a message and we're listening to that and we've heard it loud and clear.
Voilà, c'était Josh Frydenberg, la chef adjointe du Parti travailliste. Tania Plibersek était sur Sky News. Elle pense que le Premier ministre devrait organiser assez rapidement des élections générales.
Well, we've been saying for some time that this government is so desperate and chaotic, so dysfunctional and divided that the best thing they could do is hold an election so the Australian people can make their minds up about whether they want a chaotic and desperate government or a Labor Party that is strong and united and focused on the issues that make a difference to Australia's everyday lives.
Voilà, c'était Tania Plibersek. Et comme je le disais au début, il pourrait bien y avoir une surprise pour le résultat final avec le libéral Dave Sharma qui pourrait être le candidat élu, le candidat du Parti libéral. Le décompte des votes postaux continue. La mort du journaliste Jamal Khashoggi et les explications de Riyad ne font pas l'unanimité. L'Arabie saoudite admet que le journaliste a été tué au sein de son consulat à Istanbul, en Turquie. Après les explications officielles de l'Arabie saoudite, les réactions continuent. La France et l'Allemagne réclament une enquête. Le directeur de Amnesty International pour le Moyen-Orient, Sama Hadid, parle de manque de transparence de la part des Saoudiens.
Given that the Saudi Arabian government is involved into the killing of Jamal Khashoggi, now we need an independent, transparent investigation, and one that is led by the UN. The Saudi Arabian government cannot whitewash and cover up the details and truth surrounding the death of Jamal. And this is why we need an independent investigation.
Sama Hadid, directrice de Amnesty International pour le Moyen-Orient. Aux États-Unis, Washington semble accepter les explications saoudiennes. Écoutez le reportage de Grégoire Portier pour RFI.
Adam Schiff ne croit pas du tout à la version fournie par l'Arabie Saoudite pour justifier la mort de Jamal Khashoggi. S'il a eu à se débattre dans le consulat à Istanbul, c'est qu'il essayait de sauver sa peau face à des gens qui voulaient le capturer ou le tuer, a expliqué l'élu démocrate. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Membre du comité du renseignement de la Chambre, il a reçu un rapport détaillé et encore confidentiel sur le sujet. Ainsi, si les agences spécialisées américaines ne se sont pas encore prononcées publiquement sur la disparition du journaliste dissident, elles ne valident pas la thèse de l'accident finalement proposée par Riyad et qui semble satisfaire Donald Trump. Le Washington Post affirme entre autres que la CIA a déjà pu écouter des enregistrements fournis par les autorités turques qui prouveraient que Khashoggi est bien tombé dans un guet-apens et qu'il a ensuite été démembré. Car non seulement il a fallu plus de 2 semaines à l'Arabie Saoudite pour reconnaître son implication, mais on n'a toujours aucune information sur ce qu'est devenu le corps. Trump va-t-il alors, comme dans le dossier russe, continuer de privilégier les explications fournies par les dirigeants étrangers incriminés plutôt que de croire ses propres agences de renseignement ?
Voilà, c'était Grégoire Portier pour RFI. Le gouvernement australien a décidé de ne pas assister au sommet d'investissement en Arabie Saoudite la semaine prochaine dans le sillage de la mort du journaliste. Le gouvernement saoudien a arrêté 18 suspects, tous saoudiens, en Arabie Saoudite, dont 2 hauts responsables qui ont été limogés, 2 principaux collaborateurs du prince Ben Salam. Le point avec Béatrice Leveillé pour RFI.
Le général Ahmed Al-Assiri, chef adjoint du renseignement saoudien, et Saoud Al-Qahtani, conseiller média à la cour royale, sont des proches du prince Mohamed Ben Salman. Le général Al-Assiri assistait souvent aux réunions à huis clos du prince héritier avec des dignitaires étrangers en visite dans le royaume. Avant d'être promu chef adjoint du renseignement général en 2017, il était porte-parole de la coalition militaire intervenant au Yémen contre les rebelles houthis. Formé à Saint-Cyr, il est pilote et parle couramment le français et l'anglais. Saoud Al-Qahtani était jusqu'à présent conseiller média à la cour royale. Il organisait pour des journalistes étrangers des entretiens avec Mohamed Ben Salman. Il a 1 300 000 personnes qui le suivent sur Twitter. Jamal Khashoggi affirmait que Qahtani entretenait une liste noire de journalistes critiques du royaume et qu'il était connu pour chercher à les intimider. Dans une interview posthume publiée vendredi par le magazine Newsweek, Khashoggi qualifie Qahtani de voyou.
Béatrice Leveillé pour RFI. Des milliers de manifestants dans les rues de Londres pour demander la tenue d'un nouveau référendum sur le Brexit, le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne le 29 mai prochain. Selon les organisateurs, il y avait 700 000 personnes dans les rues de Londres. La première ministre Theresa May a exclu la tenue d'un deuxième référendum. Écoutez la réaction de cette personne dans la rue.
We're here to push for a people's vote. We think it, true democracy is putting this referendum back to the people again. So much has happened, so many more facts have been uncovered since the referendum, which was really based on a lot of false information and lies, effectively. And I think public mood has changed in the United Kingdom, and if it was put to the people again, we'd choose to remain in the European Union.
Voilà la réaction d'un manifestant dans la rue de Londres. Analyse maintenant de Sophie Lussouarn, professeure de l'Université de Picardie.
Aujourd'hui, le Royaume-Uni se trouve dans une impasse. Le Premier ministre veut éviter l'organisation d'un second référendum sur le Brexit qui risquerait de conduire à des émeutes. C'est-à-dire que, si vous voulez, les partisans du Brexit ont menti au peuple britannique. Ils ont une nostalgie du passé britannique et ne voient pas très bien l'évolution du monde contemporain et les risques de fragmentation que présente le Brexit. Le pays est de plus en plus divisé. Elle doit essayer de concilier les intérêts des partisans du Brexit et du maintien dans l'intérêt du Royaume-Uni. C'est un peu la quadrature du cercle.
Voilà, analyse de Sophie Lusswan, professeure de l'Université de Picardie. Jour de vote en Afghanistan où au moins 17 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées dans des attaques revendiquées par les talibans. Reportage Sonia Ghezali pour RFI.
1000 bureaux de vote sont restés portes closes par souci sécuritaire ou par manque d'organisation. Les élections jouent donc les prolongations demain. Le climat de terreur aussi, puisque les talibans ont mis leurs menaces à exécution aujourd'hui en multipliant les attaques. La dernière à Kaboul a été perpétrée en fin de journée par un kamikaze qui s'est fait exploser dans un bureau de vote. Dès la fin de matinée, des explosions ont retenti dans différents quartiers de la capitale. Attaques également dans plusieurs provinces du pays. À ces violences se sont ajoutées de nombreuses difficultés logistiques. Des électeurs ont parfois attendu 2 heures devant des centres qui sont restés fermés. Les agents électoraux n'étaient pas à leur poste. Les listes d'électeurs manquaient. Les machines biométriques ne fonctionnaient pas. Une certaine confusion régnait, même si ailleurs, de nombreux électeurs ont pu glisser leur bulletin dans l'urne sans difficulté. Les images d'hommes et de femmes index teintés d'encre bleue ont largement été relayées par les médias. Leur crainte aussi, les électeurs sont nombreux à reconnaître être allés voter en ayant conscience de s'exposer au danger. La peur, nous vivons avec, mais elle ne nous empêchera pas d'avancer, disaient certains. La majorité des électeurs qui sont allés voter aujourd'hui doit certainement penser la même chose.
Sonia Ghezali pour RFI. En France, l'affaire Mélenchon continue à dominer l'actualité à la suite des perquisitions à son domicile et au siège de la France insoumise. Tout ça sur la sincérité des comptes de sa campagne, la campagne de Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne présidentielle. Il y a eu aussi la publication par Mediapart d'informations issues de ces perquisitions. On écoute les dernières nouvelles avec Simon Rosé pour RFI.
Les premières découvertes des perquisitions Mélenchon, c'est le titre de l'article de Mediapart qui a fait voir rouge au patron de la France Insoumise, article qui révèle ses liens très proches avec Sophia Chikirou, son ancienne directrice de la communication et personnage central de l'enquête consacrée au financement de sa campagne à l'élection présidentielle. Article qui révèle également la découverte de 12 000 euros en liquide au domicile d'un ami de Jean-Luc Mélenchon, une somme confiée par la mandataire financière de la campagne et dont l'origine et la destination pourrait être problématique selon les enquêteurs. Quoi qu'il en soit, le chef des Insoumis goûte guère à ces révélations et le fait savoir par la voix de son avocat. Ce sont des informations couvertes par le secret de l'enquête, écrit maître Mathieu David dans un communiqué. Il en appelle ainsi au dessaisissement du procureur en charge de l'enquête. Les rapports déjà tendus entre Jean-Luc Mélenchon et les médias continuent donc de se détériorer. Énième épisode ce samedi avec une plainte à son encontre déposée par Radio France. Sa cellule d'investigation avait en effet publié un article sur cette affaire qui lui aussi n'a pas plu à Jean-Luc Mélenchon. Il a vivement réagi dans une vidéo dans laquelle il qualifie les journalistes de France Info d'abrutis et appelle ses soutiens à les discréditer et les pourrir.
Simon Rosé pour RFI. Donald Trump, le président des États-Unis, a annoncé le retrait de son pays du traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire signé avec la Russie en 1987 par Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev. Donald Trump estime qu'il y a eu des violations par la Russie. Un mot de sport et la victoire des kangourous dans le test match international de rugby hier contre Tonga, 34-16. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie, Perth maximal de 21 degrés, Adélaïde 24, Melbourne 19, Hobart 21, Canberra 20, Sydney 20 également, Brisbane 28, Cairns 32, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 32 degrés. Un rappel des grands titres, la candidate indépendante Karen Phelps aurait remporté l'élection partielle de la circonscription de Wentworth en Nouvelle-Galles du Sud. Le décompte des votes postaux se poursuit. Il pourrait y avoir une surprise au final, les États-Unis se retirent du traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire signé avec la Russie en 1987. Fin du journal, restez avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Êtes-vous inscrit au concours national des langues SBS 2018? Le concours est ouvert à toute personne apprenant une nouvelle langue jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, visitez sbs.com.au/nlc18.